invité, et donc je remercie.
Et nous, on te remercie.
Monsieur Mendès de m'inviter à venir discuter avec vous de ce qu'est l'histoire. Pour laquelle je note ici ce qu'est l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? Quelle définition pourriez-vous me proposer pour nommer l'histoire? Je l'écris comme ça en papier. Qu'est-ce que l'histoire?
Je vous. Ce qui s'est passé, du coup, a évolué sans cesse, parce qu'on retrouve parfois des documents ou des archives, et c'est une perte d'information en plus sur ce qui s'est passé.
Très bien, je valide du lit. Donc, les faits passés. Donc, déjà, cette idée que c'est en gros le passé des hommes. Ouais, je suis d'accord avec vous. On continue. Votre proposition pour l'histoire. Que peut signifier ce mot historien? Autre définition toute simple qu'on pourrait donner, c'est quoi l'histoire? Le mot histoire, il a plusieurs sens, hein, il est polysémique. Hein. Okay. En histoire, on peut en prendre quoi par histoire?
C'est là pour
raconter un événement. Donc un récit. Donc je vais noter également l'idée de récit. Ok, pas encore. Le mot histoire dans un autre contexte peut signifier quoi?
Des événements marquants.
Des événements, donc à un moment donné, il va falloir que je me débrouille pour évoquer les événements. Ok. Qu'est-ce qu'un événement? C'est une bonne question. Et puis tout simplement l'histoire, ça peut être simplement la petite histoire qu'on raconte. Hein? Un récit distractif. Ça pourrait être la première définition, récit distractif. Ça peut être le passé des hommes et ça peut être tout simplement le travail de l'historien. Voilà, trois définitions toutes simples qu'on pourrait donner. Bon, moi je vais tenter une définition simple, c'est celle que je vous avais donnée en place. C'était la définition de l'histoire que je retiens le plus souvent, qui consiste à dire l'histoire. C'est une science qui essaye de façon objective de faire le récit du passé. D'accord? Donc c'est une science qui essaye de façon objective de faire le récit des événements passés. Et je vais m'arrêter là. Seulement, là j'ai comme l'impression que je suis en train de m'exposer à un certain nombre de tacles. Donc je vais laisser la parole à M. Mendès.
Ok, merci. Bon, moi je vais essayer de partir de cette idée que vous avez dégagée là, l'histoire, comment tu dis, science de...
C'est une science qui se veut objective, qui essaie de faire le récit du passé, et de la façon la plus objective possible.
D'accord, ok. Donc, ça pose problème d'un point de vue philosophique, parce que ça suppose que l'histoire, c'est la connaissance des événements passés. Et ce terme de connaissance peut paraître problématique parce que ça nous fait penser que l'histoire serait évidente. Que, au fond, ce qu'on nous raconte est d'une limpidité, d'une clarté, et que les choses sont effectivement telles qu'on nous les décrit. Je sais pas, moi, j'ai appris l'histoire à l'école, j'ai cru tout ce qu'on m'a dit. Par exemple, j'ai cru très longtemps que Henri IV et Louis XIV étaient les seuls rois de France, étant pas loi de naissance. Voilà. Donc c'est cette idée de connaissance suppose le savoir, suppose l'objectivité, suppose la rigueur, et c'est là-dessus qu'il y a un petit problème, semble-t-il. D'abord parce que la vérité se définit. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, dans vos copies, comme souvent les élèves, que chacun définit la vérité comme il le souhaite, on est tous différents. Non, il y a une définition très claire de la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est... Ça, notez-le, s'il vous plaît. La vérité, c'est l'accord, hein, l'accord entre la pensée et la réalité. La pensée, ça peut être. La pensée, elle peut prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être. Je dis quelque chose au sujet de la réalité, je dis ben, il fait beau. Ouais, tout simplement, je fais un constat, il fait beau. Je constate que je vois, il fait beau. La pensée, ça peut être une théorie. Quand on est en science, on élabore des théories. C'est-à-dire que on donne une vision cohérente d'un phénomène. Hein, c'est le, créer une vision cohérente, objective, comme l'a dit Monsieur Néré. On essaie d'élaborer cette théorie. Et à partir de là, on va expérimenter pour vérifier la concordance ou l'accord entre la théorie et la réalité. Et c'est ce qu'on fait en science. Le problème en histoire, c'est que les phénomènes, les faits étant passés, on ne peut pas les vérifier. Le phénomène scientifique est un phénomène qui est reproductible à l'identique et de manière infinie. D'accord ? Je peux reproduire le phénomène. Et parce que je peux le reproduire, je peux le tester. Le phénomène historique, par définition, est un phénomène singulier. Et donc, voilà.
D'abord, la parole à Julie qui veut intervenir.
Oui, parce qu'on parle du coup par rapport à l'histoire, les vérités, la pensée, la réalité, si ça diffère selon les points de vue.
Oui.
La réalité, elle peut être alternée.
Donc, moi, ce que j'aime bien dans la réponse de Julie, la remarque de Julie, c'est qu'elle pose la question de la relativité, et c'est l'un des écueils de l'histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait presque finalement relativiser tout propos en disant, si finalement chaque historien avance sa version des faits, son récit, ça remet en cause finalement l'intégralité de l'histoire. Ok. Alors, pour répondre à cette remarque, je vais m'appuyer sur la base posée par M. Mendez, c'est-à-dire, effectivement, on va rechercher dans une science à accorder la pensée avec la réalité, et il prend l'exemple des sciences dites dures en disant ces sciences, elles s'appuient sur une théorie, et en fait, l'une des démarches les plus courantes en science, c'est ce qu'on appelle la démarche hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on va mettre une hypothèse, on va essayer de vérifier cette hypothèse par le calcul, et on va essayer d'obtenir des résultats, et ensuite on va confronter ces résultats à l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience doit valider ou pas finalement l'hypothèse. C'est ça qu'on appelle la démarche hypothético-déductive. J'ai un exemple très récent à vous donner, récent et ancien à la fois, d'une hypothèse qui a été émise il y a près d'un siècle. C'est une hypothèse faite par Albert Einstein, vous connaissez, hein, bon, c'est le père de la théorie de la relativité, la relativité restreinte et la relativité générale, et il avait, par ses calculs, dit, en fait, l'espace-temps peut connaître des variations, peut connaître des modifications. Et ses calculs étaient formels, c'était par le calcul prouvable. Problème, cette hypothèse n'a été vérifiée que l'année dernière. On a des capteurs américains qui ont réussi à prouver qu'il y avait des ondes gravitationnelles qui prouvaient effectivement que l'espace-temps pouvait se déformer. Donc là, voilà, on a un exemple de démarche, et c'est la raison pour laquelle l'historien Paul Vane, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire », dit « L'histoire n'est pas une science ». Il dit « On ne peut pas en histoire faire de théorie générale », j'aime bien l'expression, « On ne peut pas faire de théorie générale dont on pourrait déduire, par exemple, 1789. On ne peut pas faire de théorie générale sur laquelle, qui permettant d'aboutir à conclusion, résultat, 1789. Ce n'est pas possible. » Il dit « L'histoire, écoutez bien, elle ne peut ni déduire, ni prévoir. » J'entends bien ce procès. J'entends bien les attaques. L'histoire n'est pas une science. Cependant, deux choses. Première chose, l'anecdote. On a des exemples. Allez, on a un exemple d'historien qui a réussi une prédiction. C'est un historien qui est toujours vivant, qui s'appelle Emmanuel Todd. Il se trouve qu'Emmanuel Todd, en 1976, avait prévu la chute de l'URSS, la dislocation de l'URSS. Il s'appuyait sur quoi ? Il s'appuyait sur des documents, notamment des documents statistiques, même de faux documents statistiques qui montraient qu'en fait, l'économie soviétique était en pleine déliquescence. Et à partir de ça, il a dit, c'est sûr, on va avoir un effondrement de l'URSS. Donc, un exemple. Mais c'est vrai qu'en général, les historiens ne peuvent pas prédire l'avenir. Deuxième contestation, face à ce procès en non-science qui concerne l'histoire. Deuxième contestation, c'est vrai, mais les historiens, depuis longtemps, sont conscients des risques de leur métier et ils font tout pour éliminer les difficultés liées à leur source et également liées à leur démarche. Par exemple, concernant la démarche, Les historiens, M. Mendès tout à l'heure a parlé de récits, de phénomènes qu'on raconte, et que les historiens, ça fait longtemps qu'ils ne font plus une histoire récit. Ça fait longtemps qu'ils font une histoire en se basant sur des problèmes. Ils posent d'abord un problème, ils ont une difficulté, ils élaborent un questionnement, c'est ce que vous faites. Chaque fois que vous avez une composition, vous avez une problématique, donc ils posent un certain nombre de questions, et par rapport à ces questions, ils vont essayer d'établir une liste de documents qu'ils vont questionner, qu'ils vont analyser en fonction de leur question de départ. Laure Clémentine. Et Laure et Clémentine ont eu un exemple il y a quelques semaines à Mirande, un dimanche après-midi, de ce type de questionnement. Je vous prends un exemple. Si la question concernant les harkis est de savoir si les harkis ont été bien accueillis à Mirande, eh bien l'historien va se débrouiller pour avoir plein de sources à traiter pour pouvoir répondre de façon conforme à la réalité. Je reprends ce qu'on a écrit au début de l'exposé pour donner un exposé conforme à la réalité de ce qui s'est passé. Et vous rappelez, Laure, quel fut le problème au moment du débat où on avait donc des descendants de harkis et un monsieur qui avait fait des recherches aux archives. Pourquoi ça s'est un peu animé à ce moment-là?
Bah parce que M. Cayol, il n'a pas vécu, donc il ne peut pas vraiment savoir de l'extérieur comment ça se passait.
Et pourtant, il faisait un récit Mais il faisait quand même un récit de ce qui s'était passé, de l'accueil. Sur quelle base?
Il s'est basé que sur les archives. Et étant donné qu'il n'y a plus non plus extrêmement d'archives de la ville de Mirande, il n'y a que certains documents qu'il a pu se procurer, et pas forcément ceux qui expliquent totalement comment ça s'est passé.
Donc, quelle solution pourrait-on utiliser pour pouvoir y arriver à cette vérité, à cette réalité?
Multiplier les sources.
Multiplier les sources. Et vous pensez à quelles sources?
Pensez
par exemple aux témoignages. Bon, alors il y a un historien qui s'appelle Marc Bloch qui a écrit un petit ouvrage que je trouve remarquable. C'est Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Il s'intéressait à la Première Guerre mondiale. Et Marc Bloch disait, il n'y a pas de bons témoins. Il n'y a pas de bons témoins. Donc il dit, bon, il faut se méfier des témoins. Mais, voilà, d'une manière générale, les historiens sont conscients du problème posé par les documents. Comme le dit Apollina, il faut multiplier les sources, il faut utiliser les témoignages, il faut utiliser les archives, toutes les archives, pour tenter de créer, de construire un récit de la réalité. Mais là, je m'expose à une nouvelle attaque.
Non, mais c'est très très bien ce que tu viens de dire, parce que justement, ce qui est important, et ce qui est important pour nous, hein, vous êtes de jeunes savants, hein, qui est en gestation, et c'est cette idée de construction. Voilà. L'idée de laquelle je partais au début, c'est de dire qu'il ne faut pas penser qu'il existe une histoire en soi, une histoire qui serait indépendante de la manière dont on l'aborde. L'histoire, c'est toujours notre point de vue sur l'histoire. C'est toujours la difficulté. C'est qui écrit l'histoire? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il vise? D'accord? Et donc, il faut comprendre que l'histoire, c'est d'abord un récit, mais qui se construit. Vous savez, la vie, elle est faite de telle sorte que tout se mélange. C'est une espèce de chaos, hein, une espèce de... elle n'a ni commencement ni fin. La vie, elle est un flux permanent, un flux incessant, un changement qui se produit de manière constante, etc. La vie, elle est comme ça, elle est cette espèce de chaos. Or, dès lors qu'on fait un récit, on organise ce chaos, on lui donne forme. C'est-à-dire qu'on va dégager des lignes de force, on va choisir des points de vue privilégiés. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui n'est pas intéressant? On va faire des choix. On va prendre des décisions. Et l'historien, quand il travaille, il est obligé de faire des choix et de décider. Alors, bien sûr, il le fait de la manière la plus cohérente qu'il peut, en essayant de trouver des raisons légitimes, Mais n'empêche que tout ça, c'est une construction, qu'on le veuille ou pas. Comme le dit un romancier péruvien, Mario Vargas Llosa, il dit, dès que les faits sont traduits en paroles, ils subissent une modification profonde.
Et l'historien Lucien Fabre dit le fait pur n'existe pas. Voilà. Le fait pur n'existe pas. En fait, le fait, il est choisi par l'historien. Et donc, il peut, à partir de ça, organiser de façon linéaire un récit. Voilà. Mais, voilà, on aboutit à une reconstruction. Le fait pur n'existe pas.
Voilà. Mais c'est là la difficulté. Alors, qu'est-ce qui fait cette difficulté si on reprend Paul Vane cité par M. Néré, si on reprend Paul Ricoeur dans le temps et récit, l'histoire, c'est une connaissance par trace. L'histoire, c'est une connaissance par trace. C'est-à-dire qu'on sait que l'histoire a eu lieu, parce qu'on a des traces. On a des documents, on a des archives, on a des bâtiments, des monuments, des ruines. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de citer un homme que j'adore, Carlos Fuentes, l'écrivain mexicain, qui, dans une de ses nouvelles, dit « Les ruines sont la preuve de l'existence du passé ». Enfin, c'est l'existé, on le voit, là, on le constate. Voyez. Donc, il y a des traces. Hein. Il y a des traces, il y a des récits, des lettres qui ont été écrites, etc., des documents qui ont été produits. Il y a des traces. Mais la difficulté, c'est que le propre d'une trace, c'est qu'elle est un signe. Ça veut dire quoi un signe? Le signe, c'est quelque chose qui indique l'existence d'autre chose, d'accord, mais on ne sait pas quoi. Le signe nous révèle un sens, mais ce sens nous est caché. Ce sens est occulté. Et tout le travail de l'historien, c'est de faire émerger ce sens. Quelle est la signification de tel événement? Quelle est la signification de tel événement? Voyez, il faut faire émerger ce sens. Ce qui veut dire que si l'histoire est une connaissance par trace, ça veut dire que l'histoire, d'une certaine manière, est une énigme. Alors, j'ai dit énigme pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, si on parle de l'histoire comme connaissance des événements passés, l'idée de connaissance nous fait croire à une évidence. L'énigme, c'est tout le contraire de l'évidence. L'énigme, c'est la présence d'une réalité à laquelle je ne suis pas capable de donner un sens. L'énigme, c'est la présence d'une réalité que je dois déchiffrer. Il y a un sens, mais ce sens, il est latent, il est caché. Et tout le travail, c'est de rendre ce sens manifeste.
Moi, j'ai une question du coup à poser à M. Mendès. Est-ce que l'histoire a un sens?
Alors, on est dans un autre registre, là. La question, elle est beaucoup plus grave. Elle est beaucoup plus grave. Parce que dire, est-ce que l'histoire a un sens? Vous voyez, dire que l'histoire a un sens, ça veut dire que l'histoire, elle nous amène d'un point A vers un point B, selon une certaine, peut-être selon une certaine logique, ou en tout cas selon une certaine rigueur, je ne sais pas. Ça voudrait dire que l'histoire, c'est un progrès, qu'on va du pire vers le meilleur, peut-être. L'histoire a un sens. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que là, nous, on est au moment où l'humanité culmine à travers nous et on est meilleur que nos ancêtres, peut-être.
Là, on peut en donner un exemple. Il y a un Allemand, Norbert Elias, qui a écrit un merveilleux essai sur le processus de civilisation. Norbert Elias, il écrit, on va dire, dans les années 20-30, et il dit, en gros, ce qui caractérise l'Occident depuis le Moyen-Âge, c'est un processus de civilisation. Il entend par civilisation l'idée que, désormais, lorsqu'il y a un litige, il y a un conflit, on ne se tape pas dessus, on essaye d'avoir des codes, on essaye de s'entendre, et il a le sentiment qu'en Occident, depuis le Moyen-Âge, tout est fait pour justement créer ces codes, créer ces conditions pour que les hommes puissent s'entendre et régler leurs conflits, leurs disputes, de façon pacifique. Très bien. Et il écrit ça dans les années 30. Et il parle de processus de civilisation, il est allemand, il est juif. Quel est le problème? Très bien, la guerre 39-45 qui sert de cadre à quoi? À quoi? À quel événement?
À la déportation.
Oui, vous dites?
À la déportation des juifs.
À la déportation et au génocide. Et lui-même, il a été touché dans sa famille par le génocide. Lui, il a pu fuir. Et donc, du coup, il a pu voir ce que les nazis ont pu faire. Et donc, il parle de processus de décivilisation dans ce cas-là. Il a bien dû faire le constat que, du fait que sa théorie, elle ne s'appliquait pas. Et des années plus tard, il a donc écrit un livre qui s'appelle « Les Allemands ». Et cette, il vient d'être publié à nouveau. Et dans cet ouvrage, il essaie d'expliquer la particularité de ce qui s'est passé en Allemagne. Il explique qu'en Allemagne, il y a eu une combinaison de facteurs qui ont fait que, finalement, les Allemands, et les Allemands nazis pour préciser, se sont rendus coupables de cette barbarie. Et il explique que c'est parce qu'en Allemagne, il y a des codes, moi je les qualifierais de féodaux, mais des codes d'ancien régime qui ont perduré, notamment dans le milieu des étudiants, qui ont conservé des cercles de formation sportive et intellectuelle. On avait des codes qui étaient des codes aristocratiques. Et il dit ça a favorisé le respect des instructions données par les chefs nazis. Il dit également il y a un frontisémite, mais qui était commun à l'ensemble de l'Europe. Il dit également qu'il y a l'avènement d'une forme d'antisémitisme prétendument scientifique en France également à ce moment-là. Et la combinaison de tous ces éléments explique cette décision. Et donc finalement, là, Norbert Elias, quelque part, il s'est trompé. Il a besoin à un moment donné de faire un monde honorable, de dire, bon, voilà, cette théorie de décision, elle connaît des exceptions, elle ne marche pas toujours. Il y a un autre historien et philosophe qui a tenté de donner un sens à l'histoire. C'est Karl Marx. Comment ? Que disait Karl Marx de l'histoire ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que disait Karl Marx de l'histoire ? Comment elle fonctionne l'histoire pour Karl Marx ? Un rapport dialectique très simple, en fait, cette dialectique, il emprunte à Hegel, mais il va plus loin qu'Hegel. D'ailleurs, il disait que Hegel, n'avait pas vu un certain nombre de bégaiements de l'histoire. Vous voyez pas comment Karl Marx expliquait l'histoire ? Marx, il dit, l'histoire, elle s'explique toujours par, qu'on appelle, la lutte des classes. Ah, ça dit quelque chose ? Ça veut dire quoi, la lutte des classes ? Qui s'oppose ? J'écoute. Soit Mélie, soit moi. Oui, les classes sociales. Et il dit finalement, de l'Antiquité, voire même plus loin, jusqu'à nos jours, il y a toujours eu des dominés, notez comme ça, pour gagner du temps, et des dominants. Et il dit, cette vue des classes, elle a toujours opposé, par exemple, il dit, au Moyen-Âge, les serfs, par exemple, à la noblesse. Et il dit, à la veille de la Révolution française, qui sont les dominants ? Les dominants, c'est la noblesse, et qui sont les dominés ? Le peuple, le tiers-état, pour faire simple. Et il dit, ça se conclut par quoi ? Ça se conclut par une révolution. Et cette révolution, elle met au pouvoir la bourgeoisie, c'est-à-dire le sommet du tiers-état, et cette bourgeoisie va devenir dominante vis-à-vis des ouvriers, ce qu'il appelle le prolétariat. Et il dit, la lutte des classes explique l'histoire, toujours cette opposition entre dominés et dominants, et on aboutit à une révolution. Et il espère qu'à terme, la révolution va mettre au pouvoir les ouvriers. Il imagine d'ailleurs une phase qu'il appelle la dictature du prolétariat, où les ouvriers s'emparent du pouvoir, et il dit, à la fin, terminé, plus de classe, plus d'État, on arrive au stade du communisme. Voilà, il explique comme ça l'histoire. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on a connu le stade du communisme ? Pour l'instant, même dans les pays qui se sont revendiqués du marxisme, on n'a pas encore connu l'étape du communisme. Voilà, donc, il est à l'origine quand même d'une école historique, hein. Il y a ce qu'on appelle le matérialisme historique. Le matérialisme historique s'inspire de cette vision de l'histoire, la lutte des classes. Et c'est une école historique qui, pour beaucoup, s'appuie sur l'économie, sur les grandes structures sociales pour expliquer l'évolution de l'histoire. Donc il y a des gens qui ont donné un sens à l'histoire. Voilà. Donc Norbert Elias, à sa façon, avec cette notion de progrès, Karl Marx avec la lutte des classes, problème, souvent cette tentative de donner un sens à l'histoire trouve un démenti cinglant dans la réalité.
Oui, et puis c'est très intéressant cet exemple que tu donnes là, parce que ça montre l'idée de construction. C'est-à-dire que quand on dit construction, y a le risque de projeter sur des événements historiques, non pas ce que les événements représentent en eux-mêmes, mais nos propres valeurs. Par exemple, si je prends Marx et son fidèle ami Engels, ils reprennent par exemple l'avènement de la réforme, hein, la naissance du protestantisme, et vous savez, on peut comprendre cet événement historique comme un événement purement religieux, enfin, essentiellement religieux. Vous avez une crise de la foi, l'Église catholique ne rend plus sa fonction, il y a le système des indulgences qui pèse sur le peuple, un peuple qui a connu, je sais pas, la famine, qui a connu des guerres, qui n'en peut plus. Et donc, à ce moment-là, on a besoin de notre paradigme, de notre modèle, et donc Luther propose le protestantisme qui va faire ses émules et qui va prendre les proportions. Donc, même s'il y a des répercussions politiques, puisque c'est le rapport entre l'État et la religion est à cette époque très fort, c'est quand même d'abord compris comme un phénomène essentiellement religieux. Engels et Marx vont radicalement rejeter cette explication au profit de la lutte des classes. Et ils expliquent la montée de cette nouvelle religion en liaison avec la montée d'une classe à l'intérieur du capital et la bourgeoisie. Et ils vont dire, en fait, la religion, elle est secondaire. Sauf que à cette époque, comme toute structure a un fondement religieux, eh bien, chacun va s'appuyer sur sa religion, soit le catholicisme pour les traditionalistes, soit le protestantisme pour ceux qui sont de la nouvelle classe montante. Et donc, ils nous disent que, en réalité, le moteur de l'histoire, c'est cette lutte des classes, etc. Et on voit qu'on peut interpréter un même phénomène historique de multiples manières. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant l'histoire, c'est ça qui est à la fois problématique. C'est-à-dire que l'historien est obligé d'imaginer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'historien, d'une certaine manière, il a besoin de son imagination pour combler les vides, pour essayer de trouver la relation de causalité qui existe entre divers faits et pour pouvoir les ordonner entre eux. Et cette imagination, elle est essentielle, elle est à la fois problématique, puisqu'elle pose la possibilité des interprétations multiples. Voir des interprétations, me semble-t-il, qui peuvent être dangereuses en histoire. Je ne sais pas.
Mais moi, j'ai envie de demander aux élèves, est-ce que vous avez des exemples de falsification de l'histoire?
Écoutez-moi. La guerre d'Algérie.
Sur la guerre d'Algérie, vous pensez à quoi, par exemple?
Quand le FLN a pris le pouvoir en Algérie.
Et dans quel discours tient le FLN s'emparant donc du pouvoir en Algérie, tient-il au sujet de ce qui s'est passé pendant la guerre? Voilà, il donne la vision, voilà, bien vu, il donne une vision de la guerre d'Algérie au cours de laquelle finalement l'ensemble des Algériens musulmans se seraient fédérés en quelque sorte pour soutenir la cause indépendantiste. Bon, on a vu que disent les chiffres, c'est une vision, une version des faits qui est finalement discutable. Mais là, on a un discours qui est un discours politique. Mais j'aime bien le raccord que vous faites effectivement, Émilie. Est-ce que vous avez d'autres exemples de falsification de l'histoire? Des gens qui ont tenté de... Oui.
Palestro, ils ont pas, enfin, l'Algérie n'a pas a omis de dire qu'il y avait des mutilations sur les corps.
Alors c'est intéressant parce que je vais vous donner deux réponses pour Palestro. Effectivement, en Algérie, le discours officiel ne souligne pas que, semble-t-il, il y ait eu des exactions contre les soldats français, notamment des appelés, qui sont tombés à l'occasion de cette embuscade de Palestro 56-57. Tout à coup, j'ai un doute. Dans le contexte de la guerre d'Algérie. C'est vrai. Et par contre, ce qu'on a vu avec le travail de l'historienne Raphaël Branche, c'est qu'il y a une volonté de multiplier les sources pour pouvoir dire est-ce qu'il y a eu véritablement massacre, mutilation, etc. Et Raphaël Branche le montre très, très, très réservé. De la même façon, je rebondis sur la remarque que tu faisais tout à l'heure sur les différents récits de l'histoire. Raphaël Branche, par exemple, elle fait partie de ces historiens qui sont très nuancés sur la question de l'abandon des harkis en Algérie. Il y a des historiens qui disent oui, les harkis ont été très clairement abandonnés par l'État français. Il y a d'autres qui disent non, il n'y a pas eu abandon. Puis Raphaël Branche, en utilisant ses références et documents, elle se montre un peu plus nuancée. Elle pense qu'il y a des contingences qui font que ces harkis, pour un grand nombre, ont été laissés en Algérie. Ça, c'est intéressant, effectivement. Il y a un autre exemple très connu de falsification de l'histoire. C'est ce qu'on appelle le négationnisme. C'est ce que vous allez dire, là ? Oui, alors Julie, expliquez-nous, c'est quoi le négationnisme ?
C'est des gens qui arrivent à dire que les camps de concentration de soldats n'ont jamais existé, que tout ça, c'est des faux.
Ce sont effectivement des gens, je ne leur donne pas le statut d'historien, ce sont des gens qui prétendent que le génocide n'a pas eu lieu. Et est-ce que vous savez quelles sont les méthodes qu'ils utilisent, les négationnistes ? Ils se prétendent historiens. Et donc, ils font ce que font normalement, ils prétendent faire ce que font normalement les historiens. Vous savez qu'un bon historien, un historien digne de ce nom, lorsqu'il a un document, il fait ce qu'on appelle la critique interne et la critique externe. La critique externe et la critique interne sont des principes de critique qui ont été fondés par des historiens au XIXe siècle. On les appelle, ils s'appellent Seignobos et Langlois, et ils disent, dès qu'un historien a affaire à des documents, Il doit vérifier d'où provient le document, si c'est un original, si c'est un document de seconde main, est-ce que c'est un récit de faits qui ont déjà eux-mêmes été rapportés, etc., pour vérifier la validité du document. Et ensuite, tout bon historien doit vérifier le contenu du document. Est-ce que ce qui est exprimé dans le document peut être validé comme vrai? On est d'accord? C'est très rigoureux. Et d'ailleurs, Seignobos et Langlois disent, à ce titre-là, l'histoire est une science, compte tenu de la rigueur, compte tenu des protocoles de recherche mis en place. Bon. Eh bien, les négationnistes, ils prétendent faire mieux que les historiens. Ils prétendent faire ce qu'on appelle de l'hypercriticisme. Ils prennent un témoignage, ils disent, ah, sur ce témoignage, il y a ce petit détail, c'est une erreur. Cet autre élément, non, on ne peut pas le valider. Et à partir de ce moment-là, écoutez bien, à partir de ces petites erreurs qu'il y a dans le témoignage, et je vous rappelle, un MacBlock dit que tout témoin, bon, voilà, il faut remettre en cause les témoignages, il y a une part de subjectivité dans le témoignage. Et donc, à partir de ça, écoutez bien, ils tentent de remettre en cause l'ensemble du témoignage et l'ensemble du document. C'est une méthode qui est, on appelle ça de l'hypercriticisme, c'est aller jusqu'au bout, mais c'est une remise en cause de l'essentiel, c'est-à-dire de la vérité de ce qui s'est véritablement passé. Et Arlette Farge dit, très bien, l'historien, effectivement, il fait une reconstruction. Compte tenu de sa sensibilité, chaque historien, ben, donne sa même vision des choses. Mais l'historien, contrairement au romancier, il a une obligation de véridicité. La société attend de l'historien qu'il dise la vérité, parce que la société attend de lui qu'il lutte contre toutes les falsifications, tous les dérapages, toutes les interprétations malheureuses. Donc il y a quand même une obligation sociale pour l'historien, c'est de tenter, avec les moyens qu'il a, avec les lacunes auxquelles il est exposé, de dire malgré tout la vérité. Je vous donne un exemple d'hypercriticisme. J'étudie régulièrement avec les élèves un témoignage, le témoignage de pas n'importe qui, c'était le chef du camp d'Auschwitz, Rudolf Franz Höss. Okay, et il dit, voilà, on est en 41, on me demande de mettre en place le Zikon B, je mets en place le Zikon B. Il dit quoi? Il dit également, le Zikon B, je vous rappelle, c'est quoi le Zikon B?
C'est un gaz de glace.
Voilà, c'est un acide prussique, c'est sous la forme de cristaux, quand ça se dissout dans l'air, ben, ça asphyxie des gens. Bon. Il dit également, dans mon camp, on a tué à peu près 3 millions de personnes. J'ai plus le texte exactement en tête, mais je crois qu'il dit 3 millions de personnes. Et alors, les négationnistes, ils arrivent et disent, Non, il n'y a pas eu 3 millions de personnes en fait. Et c'est vrai, Raoul Hubert, qui est le grand historien de la Shoah, dit non, en réalité, dans le camp d'Auschwitz, c'est peut-être 800 000 personnes. Et donc, il se base sur ce détail pour remettre en cause tout témoignage, tout document, etc. etc. C'est ce qu'on appelle l'hypercriticisme. Bien entendu, en général, les tenants du négationnisme, ils sont antisémites, etc. Et la disparition des juifs, ça ne leur pose pas de problème. Mais ils remettent en cause l'existence des chambres à gaz et du système génocide.
C'est marrant parce que tu as fait la référence au roman et Paul Veil définit l'histoire comme un roman vrai. Un roman vrai. Parce qu'effectivement, il y a cette obligation de vérité, cette obligation de tenter de coller au mieux aux événements. Et à la fois, cette idée d'écriture, cette idée de récit. Et effectivement, il y a une proximité entre les deux. Comme j'ai dit, on organise un matériau, on va lui donner une certaine épaisseur, une certaine cohérence, un ordre qu'il n'a pas nécessairement dans la réalité. Donc ça, c'est le propre de l'écriture, hein, qu'elle soit romanesque ou qu'elle soit historique. Donc il y a cette proximité et à la fois, en même temps, l'imagination dans les deux, et j'espère, elle doit être radicalement différente. On a besoin des romans parce qu'on a besoin de fiction. Parce que nous sommes des êtres humains et le propre de l'être humain, c'est d'être confronté à une réalité qui ne lui suffit pas. Hein? Le propre de l'être humain, c'est d'être ce qu'il est et de rêver d'être quelqu'un d'autre. Le propre de l'être humain, c'est d'avoir des désirs infinis et d'être dans l'incapacité de les réaliser. Je voudrais aller sur la Lune comme ça, je ne peux pas y aller, ce n'est pas possible. Donc, l'être humain, il est confronté en permanence à ses limites, il est confronté à ça. Et l'imagination romanesque lui permet d'inventer des fictions, c'est-à-dire des mensonges, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas dans la réalité, mais qui lui permettent de vivre par procuration des choses qui vont l'enrichir, l'apaiser par rapport à cette réalité insatisfaisante et qui vont lui plaire. Donc c'est-à-dire que le roman, c'est un mensonge, mais qui se donne comme mensonge, et dont la fonction, c'est à la fois d'exciter et d'apaiser cette insatisfaction propre à la réalité. C'est de nous permettre d'être autre que nous-mêmes, tout en restant le même. Donc, l'art romanesque, il est là, et c'est ça qui fait sa valeur. Ça permet d'exercer la liberté de l'esprit, parce que je ne me cantonne pas à des limites. Ça, c'est l'imagination romanesque, et elle est essentielle, il faut la défendre. Par contre, l'histoire, effectivement, doit, par une imagination, combler les vides. Il y a des traces, mais pour pouvoir donner du sens à ces traces, mais elle doit essayer, effectivement, de ne pas tomber dans ces travers décrits par M. Néré et nier ou transformer la réalité pour donner une image complètement fausse, complètement erronée. Et je crois que c'est tout le problème des pouvoirs autoritaristes, hein, des totalitarismes. De jouer sur la confusion entre roman et histoire, entre fiction et réalité, justement pour réorganiser la mémoire collective et légitimer tous les crimes dont l'État sera coupable. On l'a vu de manière dramatique avec les pays communistes, où l'histoire est sans cesse écrite et réécrite. Si vous me permettez de lire une page de Kundera, ce qui paraît édifiant par rapport à ça, il parle du régime communiste. La première page de la première nouvelle dans son livre, dans son recueil, le livre du rire et de l'oubli, pardon, et dans les lettres perdues, vous avez cette première page. En février 1948, le dirigeant communiste Clément Gottwald se mit au balcon d'un palais baroque de Prague pour haranguer des centaines de milliers de citoyens massés sur la place de la vieille ville. Ce fut un grand tournant dans l'histoire de la Bohème, un moment fatidique comme il y en a un ou deux par millénaire. Gottwald était flanqué de ses camarades et à côté de lui, tout près, se tenait Clémentis. Il neigeait, il faisait froid et Gottwald était nu-tête. Clémentis, plein de sollicitude, a enlevé sa toque de fourrure et l'a posée sur la tête de Gottwald. La section de propagande a reproduit à des centaines de milliers d'exemplaires la photographie du balcon d'où Gottwald, coiffé d'une toque de fourrure, et entouré de ses camarades, parle au peuple. C'est sur ce balcon qu'a commencé l'histoire de la Bohème communiste. Tous les enfants connaissaient cette photographie pour l'avoir vue sur les affiches, dans les manuels ou dans les musées. 4 ans plus tard, Clémentis fut accusé de trahison et pendu. La section de propagande le fit immédiatement disparaître de l'histoire et, bien entendu, de toutes les photographies. Depuis, Gottwald est seul sur le balcon. Là où il y avait Clémentis, il n'y a plus que le mur vide du palais. De Clémentis, il n'est resté que la toque de fourrure sur la tête de Gottwald. Vous voyez comment on refait l'histoire. Un personnage qui existait, on fait comme s'il n'avait pas existé. Et la seule marque, la seule trace de son passage, de son existence, c'est cette toque.
Alors, il y a un écho qui est célèbre, c'est la photo de la révolution bolchevique d'octobre 1917, et il y a une photo où on voit à une tribune et Lénine et Trotsky. Ouais. Or, à l'issue de cette révolution, après l'attaque cérébrale qui affecte Lénine, qui s'empare du pouvoir, qui est le successeur de... Oui, c'est Staline, effectivement. Et donc, Staline va se débrouiller pour que la propagande officielle efface de la photo, qui va toujours être diffusée, et efface la figure de Trotsky. Parce que Trotsky va être condamné à l'exil, Staline ne pouvait supporter la possibilité qu'il y ait en Russie un rival. D'ailleurs, il va se débrouiller pour qu'à la mort de Lénine, Trotsky soit loin, donc pour le discréditer, donnant le sentiment que Trotsky n'était pas légitime dans la succession à Lénine. Et puis ensuite, il va quand même le pousser à l'exil. Et il va finir par le faire exécuter au Mexique en 1940. Mais il l'efface même de l'image. Il est au sens propre. Et voilà, c'est un exemple très célèbre de manipulation par l'image. Moi, quand M. Mendès a évoqué cet extrait de Kundera, j'ai eu aussi en tête le livre d'Orwell, 1984. Je vous rappelle que le héros travaille dans une unité dont le rôle est de traiter les archives et de faire disparaître un certain nombre d'éléments des archives. Et donc, c'est effectivement les régimes totalitaires ont cette tendance à produire un récit sur le passé, et un récit qui arrange, en faisant disparaître les faits, mais également les documents pouvant rapporter la réalité. Une remarque, est-ce que c'est l'exclusivité des régimes totalitaires que de procéder ainsi? On peut en douter. On a étudié au sujet de la guerre d'Algérie une loi, une proposition de loi, la loi de 2005, pardon. Que proposait la loi de 2005? Oui, dites.
C'est pas le colonialisme positif?
Oui, elle, donc, sous la pression d'un certain nombre de groupes porteurs de mémoire, il était envisagé par le gouvernement de Nicolas Sarkozy de rédiger, non, pas par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, il était prévu de rédiger une loi dans laquelle on imposait dans les manuels scolaires un récit de l'histoire où on donnait à voir le rôle positif de la colonisation. Autrement dit, là, on voit que l'État interfère dans le récit de l'histoire. On a une volonté, par la loi, d'imposer un récit sur l'histoire. Et c'est aussi un enjeu de notre question aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, à l'avance, par la loi, définir ce qu'on appelle le récit national? Parce qu'il y a presque une quatrième définition qu'on pourrait donner de l'histoire. L'histoire, c'est également un récit national. En Israël, il y a un récit national. Il y a une vision des conflits israélo-arabes qui est donnée par ce récit national. En France, on a un récit national également, qui, pendant, sous la Troisième République, par exemple, cherchait à légitimer le pouvoir en remontant à l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, etc. Il y a ce qu'on appelle le récit national. C'est ce qui fédère une nation autour d'un passé commun. C'est vrai, ça existe. Mais est-ce que la loi a le droit de donner une version de l'histoire? Eh bien, ça, les historiens, en tout cas les historiens qui font un travail rigoureux, les historiens s'opposent à ce principe-là. Légiférer le récit qu'on peut faire sur le passé. Du coup, j'ai un travail à vous proposer. Vous vous rappelez de ma définition de départ? L'histoire est une science qui, de façon objective, essaye de faire le récit du passé. Monsieur Mendès m'a donné l'occasion de remettre en cause un certain nombre de termes de ma définition. Il y a plein de choses, par exemple, on a remis en cause le mot « science », on a remis en cause le mot « récit », on a remis en cause la notion d'objectivité. Du coup, j'aimerais passer de l'autre côté, et j'aimerais que vous m'aidiez à définir ce qu'est l'histoire. Dans ces conditions, c'est quoi l'histoire? Quelle définition vous donnez maintenant? Qu'on a tout déconstruit. Je vais changer de feutre. Quelle définition donner maintenant? Lintel.
C'est compliqué, il y a tant d'éléments.
Comment maintenant définir l'histoire? Est-ce que c'est une science?
Non.
On a du mal. Donc, il faudra peut-être trouver un autre terme.
Mais ça devrait tendre.
Ouais. Ah, ça devrait tendre. Un idéal? Un idéal scientifique? Okay. Quoi encore? J'écoute Émilie.
Les traces du passé?
Oui, effectivement, qui s'appuie sur les traces du passé. Traces du passé. Seigneur Boss et Langlois disent, le document c'est quoi? C'est toutes les traces, pour reprendre le terme de M. Mendès, laissé par les actes et les pensées des hommes du passé.
La recherche d'un sens par rapport à l'histoire...
Sens, point d'interrogation.
Par rapport à une histoire
énigmatique. Oui. Et bon, donc du coup, je peux laisser le point d'interrogation. Ok. Bon, je vais tenter donc une conclusion. Finalement, c'est quoi l'histoire? C'est une discipline, on va dire, pour faire simple. C'est une discipline qui, dans un idéal scientifique, pour reprendre les propositions, qui, dans un idéal scientifique, tente. Donc, c'est une discipline qui, dans un idéal scientifique, tente objectivement. D'analyser et de questionner les traces du passé. D'analyser et de questionner les traces du passé. Pour faire un récit reconstruit pour faire un récit reconstruit d'un passé dont on a du mal à trouver le sens. D'un récit dont on a du mal à trouver le sens.